Canal Sud 92.2, bonjour tout le monde. Merci à vous d'avoir cherché Contre-Histoire. Si quelques-uns, et peut-être même quelques-unes, se demandent si Gisèle Halimi est digne de reposer au Panthéon, je demande à tous ceux et celles-ci d'écouter ce qui suit pour se faire une idée. Je vous présente d'abord quelques extraits de la plaidoirie de Gisèle Halimi au procès de Bobigny le 11 octobre 1972. Procès où elle a défendu une jeune fille qui avait été violée et qui a avorté ensuite avec l'aide de sa mère, et le procès a été intenté à la mère puisque la jeune fille était mineure. Voilà ce qu'a dit Gisèle Halimi.
Une maison de bonne aloi, juste ce qu'il faut de mousse répartie aux bons endroits, assez de murs pour connaître une chaleur bien à soi, et ce qu'il faut de fenêtres pour regarder sans effroi. Non, non, je n'invente pas, mais je raconte tout droit. Elle ouvrait parfois sa porte à ceux qu'elle choisissait. La serrure n'est pas forte, maison, tu n'as pas de clé. Mais avec sa confiance, jamais elle ne pensa qu'on pût user de violence pour pénétrer sous son toit. Non, non, je n'invente pas, mais je raconte tout droit. Advint qu'un jour de malchance, une bande s'approcha. On sonne à la porte, on lance des coups de pied, ça et là. À plusieurs, on s'encourage, on prétend qu'elle ouvrira. Et commence le saccage, la porte, on l'enfoncera. Non, non, je n'invente pas, mais je raconte tout droit. Sauvagement, ils pénètrent, dévastant tout devant eux. Ils obligent les fenêtres à s'ouvrir devant le feu. Avec leurs couteaux, ils gravent des insultes sur les murs. Et s'en vont faisant les braves quand tout n'est plus que blessure. Non, non, je n'invente pas. La maison, depuis ce crime, n'a plus d'âme ni de nom. Mais elle n'est pas victime, c'est de sa faute, dit-on. Il paraît qu'elle a fait preuve d'un peu de coquetterie. Avec sa toiture neuve et son jardin bien fleuri. Non, non, je n'invente pas, mais je raconte tout droit. D'ailleurs, une maison sage ne reste pas isolée. Celles qui sont au village se font toujours respecter. Quand on n'a pas de serrure, il faut avoir un gardien. C'est chercher les aventures que de fleurir son jardin. Non, non, je n'invente pas, mais je raconte tout droit. Si vous passez par la route et si vous avez du cœur, vous en pleurerez sans doute, c'est l'image du malheur. Mais rien, pas même vos larmes, ne lui portera secours. Elle est loin de ses alarmes, elle est fermée pour toujours. Non, non, je n'invente pas, mais je raconte tout droit. Si j'ai raconté l'histoire de la maison violentée, c'est pas pour qu'on puisse croire qu'il suffit de s'indigner. Il faut que cela s'arrête, on doit pouvoir vivre en paix. Même en ouvrant sa fenêtre, même en n'ayant pas de clé. Non, non, je n'invente pas, moi je dis ce que je dois.
Je ressens, avec une plénitude jamais connue à ce jour, un parfait accord entre mon métier, qui est de plaider, qui est de défendre, et ma condition de femme. Si notre très convenable déontologie prescrit aux avocats le recul nécessaire, la distance d'avec son client, sans doute n'a-t-elle pas envisagé que les avocates, comme toutes les femmes, étaient des avortées. Qu'elle pouvait le dire, et qu'elle pouvait le dire publiquement, comme je le fais moi-même aujourd'hui. Ce que j'essaie d'exprimer ici, c'est que je m'identifie précisément et totalement avec Madame Chevalier et avec ces trois femmes présentes à l'audience, avec ces femmes qui manifestent dans la rue, avec ces millions de femmes, françaises et autres. Elles sont ma famille, elles sont mon combat, elles sont ma pratique quotidienne. Et si je ne parle aujourd'hui, messieurs, que de l'avortement et de la condition faite à la femme par une loi répressive, une loi d'un autre âge, c'est moins parce que le dossier nous y contraint que parce que cette loi, à laquelle je dénie toute valeur, toute applicabilité, toute possibilité de recevoir aujourd'hui et demain le moindre sens, que parce que cette loi est la pierre de touche de l'oppression qui frappe la femme. C'est toujours la même classe, celle des femmes pauvres, vulnérables économiquement et socialement. Cette classe des sans-argent et des sans-relations qui est frappée. Voilà 20 ans que je plaide, messieurs. Je n'ai encore jamais plaidé pour la femme d'un haut commis de l'État, ou pour la femme d'un médecin célèbre, ou d'un grand avocat, ou d'un PDG de société, ou pour la maîtresse de ces mêmes messieurs. Cela s'est-il trouvé dans cette enceinte de justice ou ailleurs? Vous condamnez toujours les mêmes, les Madame Chevalier. Retournons aux sources. Pour que Marie-Claire, qui s'est trouvée enceinte à 16 ans, puisse être poursuivie pour délit d'avortement, il eût fallu prouver qu'elle avait tous les moyens de savoir comment ne pas être enceinte et tous les moyens de prévoir. Ici, messieurs, j'aborde le problème de l'éducation sexuelle. Vous avez entendu les réponses des témoins. Ce que je voudrais savoir, c'est combien de Marie-Claire, en France, ont appris qu'elles avaient un corps, comment il était fait, ses limites, ses possibilités, ses pièges, le plaisir qu'elles pouvaient en prendre et en donner. Combien? Très peu, j'en ai peur. Je voudrais savoir combien de parents, et je parle des parents qui ont les moyens matériels et intellectuels de le faire, aborde tous les soirs autour de la soupe familiale l'éducation sexuelle de leurs enfants. Madame Chevalier, on vous l'a dit, n'avait pas de moyens matériels et elle n'avait pas elle-même reçu d'éducation sexuelle. Pourquoi ne pratique-t-on pas l'éducation sexuelle dans les écoles puisqu'on ne veut pas d'avortement? Parce que nous restons fidèles à un tabou hérité de nos civilisations judéo-chrétiennes qui s'opposent à la dissociation de l'acte sexuel et de l'acte de procréation. Ils sont pourtant deux choses différentes. Ils peuvent être tous les deux actes d'amour, mais le crime des pouvoirs publics et des adultes est d'empêcher les enfants de savoir qu'ils peuvent être dissociés.
Non, non, tu n'as pas de nom. Non, tu n'as pas d'existence. Tu n'es que ce qu'on en pense. Non, non, tu n'as pas de nom. Oh non, tu n'es pas un être. Tu le deviendrais peut-être si je te donnais l'asile. Si c'était moins difficile, s'il me suffisait d'attendre, de voir mon ventre se tendre, si ce n'était pas un piège, ou quel doute ou sortilège. Non, non, tu n'as pas de nom, non, tu n'as pas d'existence, tu n'es que ce qu'on en pense. Non, non, tu n'as pas de nom.
Nous continuons à écouter quelques tirades de Gisèle Halimi. de sa belle colère contre l'État, contre la loi, contre les magistrats aveugles et hypocrites. Deuxième responsabilité, l'accusation. Peut-elle établir qu'il existe en France une contraception véritable, publique, populaire, gratuite ? Je ne parle pas de la contraception gadget, de la contraception clandestine, qui est la nôtre aujourd'hui. Je parle d'une véritable contraception. Or, la contraception, à l'heure actuelle, c'est peut-être 6 ou 8% des femmes qui l'utilisent. Dans les milieux populaires, c'est à peine 1% des femmes. Dans la logique de la contraception, est inscrit le droit à l'avortement. Supposez qu'on oublie sa pilule. On peut oublier sa pilule. Supposez l'erreur. L'erreur dans le choix du contraceptif, dans la pose du diaphragme. L'échec, l'erreur, l'oubli. Voulez-vous contraindre les femmes à donner la vie par échec, par erreur, par oubli ? Est-ce que le progrès de la science n'est pas de barrer la route à l'échec, à la fatalité ? Supposez que Marie-Claire ait décidé d'avoir cet enfant. Pensez-vous véritablement qu'elle aurait pu le garder, l'éduquer décemment, le rendre heureux et continuer de s'épanouir elle-même ? Dire que la loi, bonne ou mauvaise, est la loi, c'est un refus de prendre ses responsabilités. Et aussi, je le dis très franchement, ce n'est pas digne de ce que doit être la magistrature. On vous dit que vous devez dire le droit. Mais dire le droit n'a jamais voulu dire devenir une justice robot et se désintéresser des grands problèmes de notre vie. A-t-on encore le droit, aujourd'hui en France, dans un pays que l'on dit civilisé, de condamner des femmes pour avoir disposé d'elles-mêmes ou pour avoir aidé l'une d'entre elles à disposer d'elles-mêmes? Ce jugement de relax sera irréversible et à votre suite, le législateur s'en préoccupera. C'était donc quelques extraits de la plaidoirie de Gisèle Halimi au procès de Bobigny le 11 octobre 72.
Savait-il que ça transforme l'esprit autant que la forme qu'on te porte dans la tête, que jamais ça ne s'arrête. Tu ne seras pas mon centre, que savait-il de mon ventre, pense-t-il qu'on en dispose quand je suis tant d'autres choses. Non, non, tu n'as pas de nom, non, tu n'as pas d'existence, tu n'es que ce qu'on en pense. Non, non, tu n'as pas de nom, déjà tu me mobilises, je sens que je m'amenuise et d'instinct je te résiste. Depuis si longtemps j'existe, depuis si longtemps je t'aime, mais je te veux sans problème. Aujourd'hui je te refuse, qui sont-ils ceux qui m'accusent ? Non, non, tu n'as pas de nom.
À votre suite, le législateur s'en préoccupera, a prévenu Gisèle Halimi à l'adresse des magistrats en 1972. Et la législatrice Simone Veil s'en est préoccupée ainsi. C'était le 26 novembre 1974, devant l'Assemblée nationale. Simone Veil présentait en tant que ministre de la Santé son projet de loi légalisant l'interruption volontaire de grossesse. Son discours est resté célèbre et on peut le retrouver sur le site de l'Assemblée nationale. Voilà le discours. Il a été publié à l'occasion de l'entrée de Simone Veil au Panthéon. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, si j'interviens aujourd'hui à cette tribune, ministre de la Santé, femme et non parlementaire, pour proposer aux élus de la nation une profonde modification de la législation sur l'avortement, croyez bien que c'est avec un profond sentiment d'humilité, devant la difficulté du problème, comme devant l'ampleur des résonances qu'il suscite au plus intime de chacun des Français et des Françaises, et en pleine conscience de la gravité des responsabilités que nous allons assumer ensemble. Mais c'est aussi avec la plus grande conviction que je défendrai un projet longuement réfléchi et délibéré par l'ensemble du gouvernement, un projet qui, selon les termes mêmes du président de la République, a pour objet de mettre fin à une situation de désordre et d'injustice et d'apporter une solution mesurée et humaine à un des problèmes les plus difficiles de notre temps. Dixit Valéry Giscard d'Estaing. Oui, oui. Si le gouvernement peut aujourd'hui vous présenter un tel projet, c'est grâce à tous ceux qui, d'entre vous, et ils sont nombreux et de tous horizons, tous ceux qui, depuis plusieurs années, se sont efforcés de proposer une nouvelle législation mieux adaptée au consensus social et à la situation de fait que connaît notre pays. Pourtant, d'aucuns s'interrogent encore. Une nouvelle loi est-elle vraiment nécessaire? Pour quelques-uns, les choses sont simples. Il existe une loi répressive, et il n'y a qu'à l'appliquer. D'autres se demandent pourquoi le Parlement devrait trancher maintenant ces problèmes. Nul n'ignore que depuis l'origine, et particulièrement depuis le début du siècle, la loi a toujours été rigoureuse, mais qu'elle n'a été que peu appliquée. En quoi les choses ont-elles donc changé, qui oblige à intervenir? Pourquoi ne pas maintenir le principe et continuer à ne l'appliquer qu'à titre exceptionnel? Pourquoi consacrer une pratique délictueuse et ainsi risquer de l'encourager? Pourquoi légiférer et couvrir ainsi le laxisme de notre société, favoriser les égoïsmes individuels au lieu de faire revivre une morale de civisme et de rigueur? Pourquoi risquer d'aggraver un mouvement de dénatalité dangereusement amorcé au lieu de promouvoir une politique familiale généreuse et constructive qui permette à toutes les mères de mettre au monde et d'élever les enfants qu'elles ont conçus? Parce que tout nous montre que la question ne se pose pas en ces termes. Croyez-vous que ce gouvernement et celui qui l'a précédé se serait résolu à élaborer un texte et à vous le proposer s'ils avaient pensé qu'une autre solution était encore possible? Nous sommes arrivés à un point où, en ce domaine, les pouvoirs publics ne peuvent plus éluder leurs responsabilités. Tout le démontre. Les études et les travaux menés depuis plusieurs années, les auditions de votre commission, l'expérience des autres pays européens. Et la plupart d'entre vous le sentent, qui savent qu'on ne peut empêcher les avortements clandestins et qu'on ne peut non plus appliquer la loi pénale à toutes les femmes qui seraient passibles de ces rigueurs. Pourquoi donc ne pas continuer à fermer les yeux? Parce que la situation actuelle est mauvaise. Je dirais même qu'elle est déplorable et dramatique. Elle est mauvaise parce que la loi est ouvertement bafouée, pire même, ridiculisée. Lorsque l'écart entre les infractions commises et celles qui sont poursuivies est tel qu'il n'y a plus à proprement parler de répression, c'est le respect des citoyens pour la loi et donc l'autorité de l'État qui sont mises en cause.
Non, tu n'as pas d'existence, tu n'es que ce qu'on en pense. Non, non, tu n'as pas de nom à supposer que tu vives, tu n'es rien sans ta captive. Mais as-tu plus d'importance, plus de poids qu'une semence? Oh, ce n'est pas une fête, c'est plutôt une défaite, mais c'est la mienne, et j'estime qu'il y a bien de victimes. Non, non.
Lorsque les médecins, dans leur cabinet, enfreignent la loi et le font connaître publiquement, lorsque les parquets, avant de poursuivre, sont invités à en référer dans chaque cas au ministère de la Justice, lorsque des services sociaux d'organismes publics fournissent à des femmes en détresse les renseignements susceptibles de faciliter une interruption de grossesse, lorsque, aux mêmes fins, sont organisés ouvertement et même par charter des voyages à l'étranger, alors je dis que nous sommes dans une situation de désordre et d'anarchie qui ne peut plus continuer. Mais, me direz-vous, pourquoi avoir laissé la situation se dégrader ainsi et pourquoi la tolérer? Pourquoi ne pas faire respecter la loi? Parce que si des médecins, si des personnels sociaux, si même un certain nombre de citoyens participent à ces actions illégales, c'est bien qu'ils s'y sentent contraints. En opposition parfois avec leurs convictions personnelles, ils se trouvent confrontés à des situations de fait qu'ils ne peuvent méconnaître. Parce qu'en face d'une femme décidée à interrompre sa grossesse, ils savent qu'en refusant leurs conseils et leur soutien, ils la rejettent dans la solitude et l'angoisse d'un acte perpétré dans les pires conditions, qui risque de la laisser mutiler à jamais. Ils savent que la même femme, si elle a de l'argent, si elle sait s'informer, se rendra dans un pays voisin ou même en France, dans certaines cliniques, et pourra, sans encourir aucun risque ni aucune pénalité, mettre fin à sa grossesse. Et ces femmes, ce ne sont pas nécessairement les plus immorales ou les plus inconscientes. Elles sont 300 000 chaque année. Ce sont celles que nous côtoyons chaque jour et dont nous ignorons la plupart du temps la détresse et les drames. C'est à ce désordre qu'il faut mettre fin. C'est cette injustice qu'il convient de faire cesser. Je le dis avec toute ma conviction. L'avortement doit rester l'exception, l'ultime recours pour des situations sans issue. Mais comment le tolérer sans qu'il perde ce caractère d'exception, sans que la société paraisse l'encourager? Je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme. Je m'excuse de le faire devant cette assemblée presque exclusivement composée d'hommes. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes. C'est toujours un drame. Et ça restera toujours un drame. C'est pourquoi, si le projet qui vous est présenté tient compte de la situation de fait existante, s'il admet la possibilité d'une interruption de grossesse, c'est pour la contrôler et autant que possible en dissuader la femme. Nous pensons ainsi répondre au désir conscient ou inconscient de toutes les femmes qui se trouvent dans cette situation d'angoisse, si bien décrite et analysée par certaines des personnalités que votre commission spéciale a entendue au cours de l'automne 1973. Actuellement, celles qui se trouvent dans cette situation de détresse, qui s'en préoccupe? La loi les rejette, non seulement dans l'opprobre, la honte, la solitude, mais aussi dans l'anonymat et l'angoisse des poursuites. Contraintes de cacher leur état, trop souvent, elles ne trouvent personne pour les écouter, les éclairer et leur apporter un appui et une protection. parmi ceux qui combattent aujourd'hui une éventuelle modification de la loi répressive? Combien sont-ils ceux qui se sont préoccupés d'aider ces femmes dans leur détresse? Combien sont-ils ceux qui, au-delà de ce qu'ils jugent comme une faute, ont su manifester aux jeunes mères célibataires la compréhension et l'appui moral dont elles avaient grand besoin? Je sais qu'il en existe, et je me garderai de généraliser. Je n'ignore pas l'action de ceux qui, profondément conscients de leurs responsabilités, font tout ce qui est à leur portée pour permettre à ces femmes d'assumer leur maternité. Nous aiderons leur entreprise. Nous ferons appel à eux pour nous aider à assurer les consultations sociales prévues par la loi. Mais la sollicitude et l'aide, lorsqu'elles existent, ne suffisent pas toujours à dissuader. Certes, les difficultés auxquelles sont confrontées les femmes sont parfois moins graves qu'elles ne les perçoivent. Certaines peuvent être dédramatisées et surmontées. Mais d'autres demeurent, qui font que certaines femmes se sentent acculées à une situation sans autre issue que le suicide, la ruine de leur équilibre familial ou le malheur de leurs enfants. C'est là, hélas, la plus fréquente des réalités, bien davantage que l'avortement dit de convenance. S'il n'en était pas ainsi, croyez-vous que tous les pays, les uns après les autres, auraient été conduits à réformer leur législation en la matière et à admettre que ce qui était sévèrement réprimé soit désormais légal? Ainsi conscient d'une situation intolérable pour l'État et injuste aux yeux de la plupart, le gouvernement a renoncé à la voie de la facilité, celle qui aurait consisté à ne pas intervenir. C'eût été cela le laxisme. Assumant ses responsabilités, il vous soumet un projet de loi propre à apporter à ce problème une solution à la fois réaliste, humaine et juste. Certains penseront sans doute que notre seule préoccupation a été l'intérêt de la femme, que c'est un texte qui a été élaboré dans cette seule perspective. Il n'y est guère question ni de la société, ou plutôt de la nation, ni du père de l'enfant à naître, et moins encore de cet enfant. Je me garde bien de croire qu'il s'agit d'une affaire individuelle, ne concernant que la femme et que la nation n'est pas en cause. Ce problème la concerne au premier chef, mais sous des angles différents et qui ne requièrent pas nécessairement les mêmes solutions. L'intérêt de la nation, c'est assurément que la France soit jeune, que sa population soit en pleine croissance. Un tel projet, adopté après une loi libéralisant la contraception, ne risque-t-il pas d'entraîner une chute importante de notre taux de natalité qui amorce déjà une baisse inquiétante? Ce n'est là ni un fait nouveau, ni une évolution propre à la France. Un mouvement de baisse assez régulier des taux de natalité et de fécondité est apparu depuis 1965, dans tous les pays européens, quelle que soit leur législation en matière d'avortement ou même de contraception. Il serait hasardeux de chercher des causes simples à un phénomène aussi général. Aucune explication ne peut y être apportée au niveau national. Il s'agit d'un fait de civilisation révélateur de l'époque que nous vivons et qui obéit à des règles complexes que d'ailleurs nous connaissons mal. Des observations faites dans de nombreux pays étrangers par les démographes ne permettent pas d'affirmer qu'il existe une corrélation démontrée entre une modification de la législation de l'avortement et l'évolution des taux de natalité et surtout de fécondité. Il est vrai que l'exemple de la Roumanie semble démentir cette constatation, puisque la décision prise par le gouvernement de ce pays à la fin de l'année 1966 de revenir sur des dispositions non répressives adoptées 10 ans plus tôt, a été suivie d'une forte explosion de natalité. Cependant, ce qu'on omet de dire, c'est qu'une baisse non moins spectaculaire s'est produite ensuite, et il est essentiel de remarquer que dans ce pays, où il n'existait aucune forme de contraception moderne, l'avortement a été le mode principal de limitation des naissances. L'intervention brutale d'une législation restrictive explique bien dans ce contexte un phénomène qui est demeuré exceptionnel et passager. Tout laisse à penser que l'adoption du projet de loi n'aura que peu d'effet sur le niveau de natalité en France. Les avortements légaux remplaçant en fait les avortements clandestins, une fois passée une période d'éventuelle oscillation à court terme. Il n'en reste pas moins que la baisse de notre natalité, si elle est indépendante de l'état de la législation sur l'avortement, est un phénomène inquiétant, à l'égard duquel les pouvoirs publics ont l'impérieux devoir de réagir. Une des premières réunions du Conseil de planification que présidera le président de la République va être consacrée à un examen d'ensemble des problèmes de la démographie française et des moyens de mettre un frein à une évolution inquiétante pour l'avenir du pays. Quant à la politique familiale, le gouvernement a estimé qu'il s'agissait d'un problème distinct de celui de la législation sur l'avortement et qu'il n'y avait pas lieu de lier ces deux problèmes dans la discussion législative. Cela ne signifie pas qu'il n'y attache pas une extrême importance. Dès vendredi, l'Assemblée aura à délibérer d'un projet de loi tendant à améliorer très sensiblement les allocations servies en matière des frais de garde et les allocations dites d'orphelins, qui sont notamment destinées aux enfants des mères célibataires. Ce projet réformera en outre le régime de l'allocation maternité et les conditions d'attribution des prêts aux jeunes ménages. En ce qui me concerne, je m'apprête à proposer à l'Assemblée divers projets. L'un d'entre eux tend à favoriser l'action des travailleuses familiales en prévoyant leur intervention éventuelle au titre de l'aide sociale. Un autre a pour objet d'améliorer les conditions de fonctionnement et de financement des centres maternels où sont accueillies les jeunes mères en difficulté pendant leur grossesse et les premiers mois de la vie de leur enfant. J'ai l'intention de faire un effort particulier pour la lutte contre la stérilité, par la suppression du ticket modérateur pour toutes les consultations en cette matière. D'autre part, j'ai demandé à l'INSERM de lancer, dès 1975, une action thématique de recherche sur ce problème de la stérilité qui désespère tant de couples. Avec le garde des Sceaux, je me prépare à tirer les conclusions du rapport que votre collègue, M. Révirez, parlementaire en mission, vient de rédiger sur l'adoption. Répondant aux vœux de tant de personnes qui souhaitent adopter un enfant, j'ai décidé d'instituer un conseil supérieur de l'adoption qui sera chargé de soumettre au pouvoir public toute suggestion utile sur ce problème. Enfin et surtout, le gouvernement s'est publiquement engagé, par la voix de M. Durafour, à entamer dès les toutes prochaines semaines avec les organisations familiales la négociation d'un contrat de progrès dont le contenu sera arrêté d'un commun accord avec les représentants des familles sur la base de propositions qui seront soumises au Conseil consultatif de la famille que je préside. En réalité, comme le soulignent tous les démographes, ce qui importe, c'est de modifier l'image que se font les Français du nombre idéal d'enfants par couple. Cet objectif est infiniment complexe et la discussion de l'avortement ne saurait se limiter à des mesures financières nécessairement ponctuelles.
Non, 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 tu n'as pas de nom, non, tu n'as pas d'existence, tu n'es que ce qu'on en pense, non, non, tu n'as pas de nom. Ils en ont bien de la chance, ceux qui croient que ça se pense. Ça se hurle, ça se souffre, c'est la mort et c'est le gouffre. C'est la solitude blanche, c'est la chute, l'avalanche. C'est le désert qui s'égrène, larme à larme, peine à peine.
Le second absent dans ce projet, pour beaucoup d'entre vous sans doute, c'est le père. La décision de l'interruption de grossesse ne devrait pas, chacun le ressent, être prise par la femme seule, mais aussi par son mari ou son compagnon. Je souhaite pour ma part que dans les faits il en soit toujours ainsi, et j'approuve la commission de nous avoir proposé une modification en ce sens. Mais comme elle l'a fort bien compris, il n'est pas possible d'instituer en cette matière une obligation juridique. Enfin, le troisième absent, n'est-ce pas cette promesse de vie que porte en elle la femme ? Je me refuse à entrer dans les discussions scientifiques et philosophiques dont les auditions de la commission ont montré qu'elles posaient un problème insoluble. Plus personne ne conteste maintenant que sur un plan strictement médical, l'embryon porte en lui définitivement toutes les virtualités de l'être humain qu'il deviendra. Mais il n'est encore qu'un devenir qui aura à surmonter bien des aléas avant de venir à terme. Un fragile chaînon de la transmission de la vie. Faut-il rappeler que selon les études de l'Organisation mondiale de la santé, sur 100 conceptions, 45 s'interrompent d'elles-mêmes au cours des deux premières semaines, et que sur 100 grossesses au début de la troisième semaine, un quart n'arrive pas à terme du seul fait de phénomènes naturels. La seule certitude sur laquelle nous puissions nous appuyer, c'est le fait qu'une femme ne prend pleine conscience qu'elle porte un être vivant qui sera un jour son enfant, que lorsqu'elle ressent en elle les premières manifestations de cette vie. Et c'est, sauf pour les femmes qu'anime une profonde conviction religieuse, c'est ce décalage entre ce qui n'est qu'un devenir pour lequel la femme n'éprouve pas encore de sentiments profonds et ce qu'est l'enfant dès l'instant de sa naissance qui explique que certaines qui repousserait avec horreur l'éventualité monstrueuse de l'infanticide, se résignent à envisager la perspective de l'avortement. Combien d'entre nous, devant le cas d'un être cher dont l'avenir serait irrémédiablement compromis, n'ont pas eu le sentiment que les principes devaient parfois céder le pas ? Il n'en serait pas de même, c'est évident, si cet acte était véritablement perçu comme un crime analogue aux autres. Certains, parmi ceux qui sont les plus opposés au vote de ce projet, acceptent qu'en fait on n'exerce plus de poursuite et s'opposeraient même avec moins de rigueur au vote d'un texte qui se bornerait à prévoir la suspension des poursuites pénales. C'est donc qu'eux-mêmes perçoivent qu'il s'agit là d'un acte d'une nature particulière ou en tout cas d'un acte qui appelle une solution spécifique. L'Assemblée ne m'en voudra pas d'avoir abordé longuement cette question. Vous sentez tous que c'est là un point essentiel, sans doute le fond même du débat. Il convenait de l'évoquer avant d'en venir à l'examen du contenu du projet. En préparant le projet qu'il vous soumet aujourd'hui, le gouvernement s'est fixé un triple objectif. Faire une loi réellement applicable. Faire une loi dissuasive. Faire une loi protectrice. Ce triple objectif explique l'économie du projet. Une loi applicable d'abord. Un examen rigoureux des modalités et des conséquences de la définition des cas dans lesquelles serait autorisée l'interruption de grossesse, révèle d'insurmontables contradictions. Si ces conditions sont définies en termes précis, par exemple, l'existence de graves menaces sur la santé physique ou mentale de la femme, ou encore, par exemple, les cas de viol ou d'inceste vérifiés par un magistrat, Il est clair que la modification de la législation n'atteindra pas son but quand ces critères seront réellement respectés. Puisque la proportion d'interruption de grossesse pour de tels motifs est faible. Au surplus, l'appréciation de cas éventuels de viol ou d'inceste soulèverait des problèmes de preuve pratiquement insolubles dans un délai adapté à la situation. Si au contraire c'est une définition large qui est donnée, par exemple le risque pour la santé physique ou l'équilibre psychologique, ou la difficulté des conditions matérielles ou morales d'existence, il est clair que les médecins ou les commissions qui seraient chargés de décider si ces conditions sont réunies auraient à prendre leurs décisions sur la base de critères insuffisamment précis pour être objectifs. Dans de tels systèmes, l'autorisation de pratiquer l'interruption de grossesse n'est en pratique donnée qu'en fonction des conceptions personnelles des médecins ou des commissions en matière d'avortement, et ce sont les femmes les moins habiles à trouver le médecin le plus compréhensif ou la commission la plus indulgente qui se trouveront encore dans une situation sans issue. Pour éviter cette injustice, l'autorisation est donnée dans bien des pays de façon quasi automatique, ce qui rend une telle procédure inutile, tout en laissant à elle-même un certain nombre de femmes qui ne veulent pas encourir l'humiliation de se présenter devant une instance qu'elles ressentent comme un tribunal. Or, si le législateur est appelé à modifier les textes en vigueur, c'est pour mettre fin aux avortements clandestins, qui sont le plus souvent le fait de celles qui, pour des raisons sociales, économiques ou psychologiques, se sentent dans une telle situation de détresse qu'elles sont décidées à mettre fin à leur grossesse dans n'importe quelle condition.
Tu n'as pas de nom, quiconque se mettra entre mon existence et mon ventre n'aura que mépris ou haine, me mettra au rang des chiennes. C'est une bataille lasse qui me laissera des traces, mais de traces je suis faite, et de coups et de défaites. Non, non, tu n'as pas de nom.
C'est pourquoi, renonçant à une formule plus ou moins ambiguë ou plus ou moins vague, le gouvernement a estimé préférable d'affronter la réalité et de reconnaître qu'en définitive, la décision ultime ne peut être prise que par la femme. Remettre la décision à la femme, n'est-ce pas contradictoire avec l'objectif de dissuasion, le deuxième des trois que s'assigne ce projet? Ce n'est pas un paradoxe que de soutenir qu'une femme sur laquelle pèse l'entière responsabilité de son geste hésitera davantage à l'accomplir que celle qui aurait le sentiment que la décision a été prise à sa place par d'autres. Le gouvernement a choisi une solution marquant clairement la responsabilité de la femme parce qu'elle est plus dissuasive au fond qu'une autorisation émanant d'un tiers qui ne serait ou ne deviendrait vite qu'un faux semblant. Ce qu'il faut, c'est que cette responsabilité, la femme ne l'exerce pas dans la solitude ou dans l'angoisse. Tout en évitant d'instituer une procédure qui puisse la détourner d'y avoir recours, le projet prévoit donc diverses consultations qui doivent la conduire à mesurer toute la gravité de la décision qu'elle se propose de prendre. Le médecin peut jouer ici un rôle capital, d'une part en informant complètement la femme des risques médicaux de l'interruption de grossesse, qui sont maintenant bien connus, et tout spécialement des risques de prématurité des enfants futurs, et d'autre part en la sensibilisant au problème de la contraception. Cette tâche de dissuasion et de conseil revient au corps médical, de façon privilégiée. Et je sais pouvoir compter sur l'expérience et le sens de l'humain des médecins pour qu'ils s'efforcent d'établir au cours de ce colloque singulier le dialogue confiant et attentif que les femmes recherchent, parfois même inconsciemment. Le projet prévoit ensuite une consultation auprès d'un organisme social qui aura pour mission d'écouter la femme ou le couple, lorsqu'il y en a un, de lui laisser exprimer sa détresse, de l'aider à obtenir des aides si cette détresse est financière, de lui faire prendre conscience de la réalité des obstacles qui s'opposent ou semblent s'opposer à l'accueil d'un enfant. Bien des femmes apprendront ainsi à l'occasion de cette consultation qu'elles peuvent accoucher anonymement et gratuitement à l'hôpital et que l'adoption éventuelle de leur enfant peut constituer une solution. Il va sans dire que nous souhaitons que ces consultations soient le plus diversifiées possible et que notamment les organismes qui se sont spécialisés pour aider les jeunes femmes en difficulté puissent continuer à les accueillir et à leur apporter l'aide qui les incite à renoncer à leur projet. Tous ces entretiens auront naturellement lieu, seul à seul. Et il est bien évident que l'expérience et la psychologie des personnes appelées à accueillir les femmes en détresse pourront contribuer de façon non négligeable à leur apporter un soutien de nature à les faire changer d'avis. Ce sera en outre une nouvelle occasion d'évoquer avec la femme le problème de la contraception et la nécessité, dans l'avenir, d'utiliser des moyens contraceptifs pour ne plus jamais avoir à prendre la décision d'interrompre une grossesse pour les cas où la femme ne désirerait pas avoir d'enfant. Cette information en matière de régulation des naissances, qui est la meilleure des dissuasions à l'avortement, nous paraît si essentielle que nous avons prévu d'en faire une obligation, sous peine de fermeture administrative, à la charge des établissements où se feraient les interruptions de grossesse. Les deux entretiens qu'elle aura eus, ainsi que le délai de réflexion de 8 jours qui lui sera imposé, ont paru indispensables pour faire prendre conscience à la femme de ce qu'il ne s'agit pas d'un acte normal ou banal, mais d'une décision grave qui ne peut être prise sans en avoir pesé les conséquences et qu'il convient d'éviter à tout prix. Ce n'est qu'après cette prise de conscience et dans le cas où la femme n'aurait pas renoncé à sa décision que l'interruption de grossesse pourrait avoir lieu. Cette intervention ne doit toutefois pas être pratiquée sans de strictes garanties médicales pour la femme elle-même, et c'est le 3e objectif du projet de loi, protéger la femme. Tout d'abord, l'interruption de grossesse ne peut être que précoce, parce que ces risques physiques et psychiques, qui ne sont jamais nuls, deviennent trop sérieux après la fin de la 10e semaine qui suit la conception, pour que l'on permette aux femmes de s'y exposer. Ensuite, l'interruption de grossesse ne peut être pratiquée que par un médecin, comme c'est la règle dans tous les pays qui ont modifié leur législation en ce domaine. Mais il va de soi qu'aucun médecin ou auxiliaire médical ne sera jamais tenu d'y participer. Enfin, pour donner plus de sécurité à la femme, l'intervention ne sera permise qu'en milieu hospitalier, public ou privé. Il ne faut pas dissimuler que le respect de ces dispositions que le gouvernement juge essentielles et qui restent sanctionnées par les pénalités prévues à l'article 317 du Code pénal maintenu en vigueur à cet égard, implique une sérieuse remise en ordre que le gouvernement entend mener à bien. Il sera mis fin à des pratiques qui ont reçu récemment une fâcheuse publicité et qui ne pourront plus être tolérées dès que les femmes auront la possibilité de recourir légalement à des interventions accomplies dans de réelles conditions de sécurité. De même, le gouvernement est décidé à appliquer fermement les dispositions nouvelles qui remplaceront celles de la loi de 1920 en matière de propagande et de publicité. Contrairement à ce qui est dit ici ou là, le projet n'interdira pas de donner des informations sur la loi et sur l'avortement. Il interdit l'incitation à l'avortement par quelque moyen que ce soit, car cette incitation reste inadmissible. Cette fermeté, le gouvernement la montrera encore en ne permettant pas que l'interruption de grossesse donne lieu à des profits choquants. Les honoraires et les frais d'hospitalisation ne devront pas dépasser des plafonds fixés par décision administrative en vertu de la législation relative aux prix. Dans le même souci, et pour éviter de tomber dans les abus constatés dans certains pays, les étrangères devront justifier de conditions de résidence pour que leur grossesse puisse être interrompue. Ce qu'il faut, c'est que l'absence de ressources ne puisse pas empêcher une femme de demander une interruption de grossesse lorsque cela se révèle indispensable. C'est pourquoi l'aide médicale a été prévue pour les plus démunis. Ce qu'il faut aussi, c'est bien marquer la différence entre la contraception, qui, lorsque les femmes ne désirent pas un enfant, doit être encouragée par tous les moyens et dont le remboursement par la sécurité sociale vient d'être décidé, et l'avortement que la société tolère, mais qu'elle ne saurait ni prendre en charge, ni encourager. Rares sont les femmes qui ne désirent pas d'enfants. La maternité fait partie de l'accomplissement de leur vie et celles qui n'ont pas connu ce bonheur en souffrent profondément. Si l'enfant, une fois né, est rarement rejeté et donne à sa mère avec son premier sourire les plus grandes joies qu'elle puisse connaître, certaines femmes se sentent incapables en raison de difficultés très graves qu'elles connaissent à un moment de leur existence d'apporter à un enfant l'équilibre affectif et la sollicitude qu'elles lui doivent. À ce moment, elles feront tout pour l'éviter ou ne pas le garder. Et personne ne pourra les en empêcher.
Non, non, tu n'as pas de nom. Non, tu n'as pas d'existence. Tu n'es que ce qu'on en pense. Non, non, tu n'as pas de nom.
Mais les mêmes femmes, quelques mois plus tard, leur vie affective ou matérielle s'étant transformée, seront les premières à souhaiter un enfant et deviendront peut-être les mères les plus attentives. C'est pour celles-là que nous voulons mettre fin à l'avortement clandestin, auquel elles ne manqueraient pas de recourir au risque de rester stériles ou atteintes au plus profond d'elles-mêmes. J'en arrive au terme de mon exposé. Volontairement, j'ai préféré m'expliquer sur la philosophie générale du projet plutôt que sur le détail de ces dispositions que nous examinerons à loisir au cours de la discussion des articles. Je sais qu'un certain nombre d'entre vous estimeront en conscience qu'ils ne peuvent voter ce texte pas davantage qu'aucune loi faisant sortir l'avortement de l'interdit et du clandestin. Cela, j'espère les avoir au moins convaincus. Que ce projet est le fruit d'une réflexion honnête et approfondie sur tous les aspects du problème. Et que si le gouvernement a pris la responsabilité de le soumettre au Parlement, ce n'est qu'après en avoir mesuré la portée immédiate aussi bien que les conséquences futures pour la nation. Je ne leur donnerai qu'une preuve, c'est qu'usant d'une procédure tout à fait exceptionnelle en matière législative, le gouvernement vous propose d'en limiter l'application à 5 années. Ainsi, dans l'hypothèse où apparaîtrait au cours de ce laps de temps que la loi que vous auriez votée ne serait plus adaptée à l'évolution démographique ou au progrès médical, le Parlement aurait à se prononcer à nouveau dans 5 ans en tenant compte de ces nouvelles données. Ainsi, dans l'hypothèse où il apparaîtrait au cours de ce laps de temps que la loi que vous auriez votée ne serait plus adaptée à l'évolution démographique ou au progrès médical, le Parlement aurait à se prononcer à nouveau dans 5 ans en tenant compte de ces nouvelles données. D'autres hésitent encore. Ils sont conscients de la détresse de trop de femmes et souhaitent leur venir en aide. Ils craignent toutefois les effets et les conséquences de la loi. À ceci, je veux dire que si la loi est généralement abstraite, elle est faite pour s'appliquer à des situations individuelles souvent angoissantes, que si elle n'interdit plus, elle ne crée aucun droit à l'avortement, et que, comme le disait Montesquieu, la nature des lois humaines est d'être soumise à tous les accidents qui arrivent, et de varier à mesure que les volontés des hommes changent. Au contraire, la nature des lois de la religion est de ne varier jamais. Les lois humaines statuent sur le bien, la religion sur le meilleur. C'est bien dans cet esprit que depuis une dizaine d'années a été rajeuni et transformé notre prestigieux code civil. Certains ont craint alors qu'en prenant acte d'une nouvelle image de la famille, on ne contribue à la détériorer. Il n'en a rien été, et notre pays peut s'honorer d'une législation civile désormais plus juste, plus humaine, mieux adaptée à la société dans laquelle nous vivons. Je sais que le problème dont nous débattons aujourd'hui concerne des questions infiniment plus graves et qui troublent beaucoup plus la conscience de chacun. Mais en définitive, il s'agit aussi d'un problème de société. Je voudrais enfin vous dire ceci. Au cours de la discussion, je défendrai ce texte au nom du gouvernement, sans arrière-pensée et avec toute ma conviction. Mais il est vrai que personne ne peut éprouver une satisfaction profonde à défendre un tel texte, le meilleur possible à mon avis, sur un tel sujet. Personne n'a jamais contesté, et le ministre de la Santé moins que quiconque, que l'avortement soit un échec quand il n'est pas un drame. Mais nous ne pouvons plus fermer les yeux sur les 300 000 avortements qui, chaque année, mutilent les femmes de ce pays, qui bafouent nos lois et qui humilient ou traumatisent celles qui y ont recours. L'histoire nous montre que les grands débats qui ont divisé un moment les Français apparaissent avec le recul du temps comme une étape nécessaire à la formation d'un nouveau consensus social qui s'inscrit dans la tradition de tolérance et de mesure de notre pays. Je ne suis pas de ceux et de celles qui redoutent l'avenir. Les jeunes générations nous surprennent parfois en ce qu'elles diffèrent de nous. Nous les avons nous-mêmes élevées de façon différente de celles dont nous l'avons été. Mais cette jeunesse est courageuse, capable d'enthousiasme et de sacrifice comme les autres. Sachons lui faire confiance pour conserver à la vie sa valeur suprême.
Love is funny, oh, it's sad. It's quiet, oh, it's mad. It's a good thing, oh, it's bad. But beautiful. Beautiful to take a chance, and if you fall, you fall. And I'm thinking I wouldn't mind at all. Love is tearful. Oh, it's gay. It's a problem. Oh, it's play. It's a heartache anyway. But beautiful. And I'm thinking, if you were mine, I'd never let you go. And that would be but beautiful, I know. Thank you. first tearful arts gate. It's a problem, arts play. It's a heartache anyway, but beautiful. And I'm thinking, if you were mine, I'd never let you go. And that would be but beautiful, I know.
C'était le discours de Simone Veil d'octobre 1974 à l'Assemblée nationale. On peut voir où en est l'évolution de cette loi, car les députés se sont prononcés ce jeudi en faveur de l'allongement du délai légal pour recourir à l'interruption volontaire de grossesse de 12 à 14 semaines. Ils ont également autorisé les sages-femmes à réaliser des IVG instrumentales, une mesure défendue de longue date par les associations féministes. Chaque année, entre 3 000 et 5 000 Françaises partent à l'étranger pour avorter à cause d'un dépassement du délai légal de 12 semaines de grossesse pour pratiquer une IVG. La crise sanitaire liée au Covid-19 a été révélatrice des difficultés rencontrées par les femmes pour avoir accès à l'avortement, comme en témoignait pour elle Alban Gaillot, députée du groupe Écologie Démocratie Solidarité, ex-LREM. Elle est à l'origine de la proposition de loi préconisant d'allonger ce délai légal pour recourir à une IVG passant de 12 à 14 semaines. Débattu ce jeudi à l'Assemblée nationale, l'article 1 du projet de loi a été adopté en fin de matinée par 102 voix pour, 65 voix contre. Le texte fait suite à un rapport parlementaire de la délégation aux droits des femmes de l'Assemblée qui recommandait cette mesure. Dans l'hémicycle ce matin, les prises de parole se sont succédées dans une atmosphère parfois houleuse. Après avoir eu une pensée pour Simone Veil, montée à cette même tribune 45 ans auparavant pour défendre son projet de loi sur l'IVG, la députée Alban Gaillot a déclaré que la proposition de loi présentée aujourd'hui était un texte équilibré, de consensus, qui répond à des demandes de longue date des acteurs de terrain et surtout des femmes. Toutefois, le gouvernement, par l'intermédiaire du ministre de la Santé, Olivier Véran, a fait valoir une position de sagesse. Il a appelé les parlementaires à attendre l'avis du Comité consultatif national d'éthique, saisi mardi, pour faire un travail complet, abouti. Ce comité doit rendre son avis au courant du mois de novembre. Malgré cette réserve, marcheurs et députés d'autres groupes politiques ont majoritairement apporté leur soutien à l'allongement du délai de 2 semaines. Outre cette mesure, l'article 1 bis autorisant les sages-femmes à réaliser des IVG instrumentales jusqu'à la 10e semaine de grossesse a également été adopté. Soutenue par de nombreuses associations, cette option vient faciliter la prise en charge des femmes et leur offre un choix de plus. Toutefois, rien n'est gagné. Le texte doit désormais poursuivre son chemin législatif et être débattu au Sénat, ce qui n'est pas une mince affaire. Les sénateurs de droite, majoritaires au Palais du Luxembourg, ne sont pas favorables à l'adoption de ce texte. Le projet fait débat même parmi les membres du groupe de la majorité présidentielle. Interrogée par Public Sénat, la sénatrice LREM du Haut-Rhin Patricia Schillinger, a reconnu qu'au sein de l'hémicycle, c'est toujours très compliqué lorsqu'il s'agit de sujets qui touchent les femmes. À titre personnel, elle s'est dite en faveur du texte et compte tout faire pour que le groupe LREM s'empare du projet. En attendant, plusieurs politiques ont tenu à réagir au vote de ce matin. La maire de Paris, Anne Hidalgo, a salué sur Twitter une avancée importante pour les droits des femmes. Le député LREM et délégué général Stanislas Guérini a remercié le travail important mené par la délégation nationale aux droits des femmes de l'Assemblée nationale. D'autres, en revanche, n'ont pas caché leur mécontentement. Agnès Thiel, ex-députée LREM, a attaqué le président de la République. « Tous ceux qui ont voté pour Emmanuel Macron en 2017, athées, francs-maçons, religieux, tous se sont fait avoir. Ce n'était pas dans le programme. » Le mot de la fin sera donc donné courant novembre, sans doute. On se tiendra au courant. À bientôt. Prenez soin de vous.
D'abord, elle a goûté la pomme, même que c'était pas très bon. Il n'y avait rien d'autre, alors en somme, elle a eu raison. Eh bien non, ça l'a pourtant arrangé l'homme. C'était pas lui qui l'avait fait. N'empêche, il l'a bouffé la pomme jusqu'au trognon et vite fait. Oui, mais c'est la faute à Ève. Il a rien fait, lui, Adam. Il a pas dit, femme, je crève. Rien à se mettre sous la dent. D'ailleurs, c'était pas terrible, même pas assaisonné. C'est bien écrit dans la Bible, Adam, il est mal tombé. Après ça, quand Dieu en colère leur dit avec des hurlements, donc une pomme à l'inventeur qui l'a volée, c'est toi, Adam. Et me s'avance à fanfaronne et dit, mais non, papa, c'est moi. Et d'ailleurs, elle était pas bonne, faudra laisser mûrir, je crois. Alors c'est la faute à Ève, s'il les a chassés d'en haut. Et puis Adam a pris la crève, il avait rien sur le dos. Ève a dit, attends, je cueille des fleurs, c'était trop petit. Fallait une grande feuille pour lui cacher le zizi. Après ça, quelle triste affaire, Dieu leur a dit, faut travailler. Qu'est-ce qu'on pourrait bien faire? Ève leur a dit, j'ai trouvé. Elle s'arrange à la salope pour faire éporter les enfants. Lui poursuivait les antilopes et les lapins pendant ce temps. C'est vraiment la faute à Ève. Si Adam rentrait crevé, elle avait une vie de rêve. Elle s'occupait des bébés, défrichait un peu la terre, semait quelques grains de blé, pétrissait bols et soupières, faisait rien à la journée. Pour les enfants, ça se complique. Au premier fils, il est content. Et quand le deuxième rapplique, il devient un peu impatient. Le temps passe, Adam fait la gueule. Il s'aperçoit que sa nana va se retrouver toute seule avec trois bonhommes à la fois. Là, c'est bien la faute à Ève. Elle n'a fait que des garçons. Et le pauvre Adam qui rêve de changer un peu d'horizon. Il faudra encore attendre de devenir grand-papa pour tâter de la chair tendre, si même il va jusque-là. En plus, pour faire bonne mesure, elle nous a collé un péché. Qu'on se repasse et puis qui dure, elle a vraiment tout fait rater. Nous les filles, on est dégueulasses, bah, ça nous est naturel. Et les garçons, comme ça passe par chez nous, ça devient pareil. Mais si c'est la faute à Ève, comme le bon Dieu l'a dit, moi je vais me mettre en grève. J'irai pas au paradis, non mais, qu'est-ce qu'ils s'imaginent? J'irai en enfer tout droit. Le bon Dieu est misogyne, mais le diable il ne l'est pas.